Une gerbe de fleurs au pied du tombeau de Napoléon. Sous la majestueuse coupole des Invalides, Emmanuel Macron a tenu à commémorer le bicentenaire de la mort de l'empereur. Une figure historique controversée que le chef de l'État a évoquée un peu plus tôt dans un discours à l'Institut de France.
De l'Empire, nous avons renoncé au pire, et de l'empereur, nous avons embelli le meilleur. Commémorer ce bicentenaire, c'est dire cela. Sans céder jamais à la tentation du procès anachronique.
Malgré les précautions de l'Élysée, cette commémoration a déclenché ces dernières semaines une bataille rangée entre les détracteurs et les partisans de Napoléon.
Moi, je n'ai pas une mémoire sélective. Je n'ai pas non plus l'objectif de déconstruire notre histoire, mais de la prendre dans sa totalité, avec ses ombres et ses lumières.
Napoléon est un grand homme, je veux dire au sens où il a fait beaucoup de choses impressionnantes, mais il a fait un putsch et rétabli l'esclavage. Bah. Mais on ne célèbre pas, quoi. Faut quand même pas donc exagérer.
Que faut-il retenir de Napoléon? La question déchaîne les passions. Pour ses partisans, Napoléon est avant tout le bâtisseur de l'État moderne. Le Conseil d'État, la Cour des comptes, les préfets, les lycées ou encore le baccalauréat, c'est lui. Mais ses détracteurs rappellent sa part d'ombre, notamment les campagnes napoléoniennes sanglantes et le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. À l'approche des commémorations, le Conseil représentatif des associations noires avait fait part de sa colère.
Si M. Macron persiste à vouloir célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon le 5, il ne sera plus digne de célébrer l'abolition de l'esclavage le 10. On ne peut pas célébrer une chose et son contraire.
Alors, Emmanuel Macron a-t-il trouvé les mots justes pour calmer les esprits? Quel est l'héritage de Napoléon? Faut-il commémorer le bicentenaire de la mort de l'empereur?
Li Napoléon était-il de droite ou de gauche? Ces notions qui, rappelons-le, sont nées de la répartition topographique des députés révolutionnaires. Ils étaient installés dans la salle selon les affinités politiques. Isabelle Véramasson, est-ce que cette grille de lecture est pertinente aujourd'hui? On voit que le débat sur la commémoration, il clive énormément la classe politique avec une scission entre la gauche et la droite.
Oui, c'est vaste question, j'ai essayé de répondre.
Vous n'avez pas deux heures.
Mais c'est vraiment, vraiment une question intéressante parce que c'est Emmanuel Macron qui a posé un peu cette question de la droite et de la gauche qui commémore aujourd'hui, donc c'est vraiment intéressant parce qu'en effet, il y a dans ce choix de commémorer Napoléon contre tout ce qu'on n'a pas fait depuis 1969, quelque chose qui marque un écho entre Emmanuel Macron et Napoléon Bonaparte, en particulier justement le fait d'être ni de droite ni de gauche, ça c'est quelque chose d'important. L'autre chose qui est intéressante dans la question, c'est que pour les étudiants, le bonapartisme, c'est la droite, puisque c'est René Raymond, notre maître à tous, avait élaboré un programme qui définissait les droites, dont l'une des droites était... Donc, pour René Raymond, le bonapartisme, c'était le pouvoir fort incarné, ce qu'est Napoléon et ce que sont en général les présidents de la République, soit 5e.
Bien sûr. Le chiffre du jour, Anne.
Oui, Elisabeth, c'est 130 le chiffre du jour, car en cette année 2021 et malgré le Covid, plus de 130 événements sont consacrés en France au bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors ça va du simple dépôt d'une gerbe à l'exposition de plusieurs mois. David Chantrane, comment expliquez-vous cet engouement des Français qui d'ailleurs place Napoléon en tête, je crois, de leur personnalité historique préférée?
Tout simplement parce que nous vivons avec Napoléon au jour le jour, dans le quotidien. Qu'on le veuille ou non, c'est un héritage à la fois de la Révolution, du Consulat et de l'Empire, dont il est bien sûr le personnage le plus marquant, mais pas uniquement. C'est toute une génération de femmes et d'hommes qui ont constitué la société dont nous sommes aujourd'hui à la fois les héritiers, mais également les dépositaires. Donc, on
vit. Vous voulez parler du Code civil, du Code pénal, de l'État, des préfets?
Quand on passe le baccalauréat, c'est Napoléon. Donc, les Français, qu'ils le veuillent ou non, ils se disent, finalement, si c'est ce personnage-là qui nous a un peu forgé, malgré, en dépit, évidemment, des éléments un peu sombres de ce bilan, eh bien, il faut s'y intéresser. Et donc, il reste le personnage le plus marquant, le plus passionnel et passionné, également, des Français. Donc, encore aujourd'hui.
Françoise Vergès, comprenez-vous cet attachement et considérez-vous, puisque votre voisin dit il nous a forgés, avez-vous été forgé par Napoléon?
Non, pas du tout.
Sans mauvais esprit.
Je n'ai pas du tout été forgé par Napoléon. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment se construit cette légende. Parce que s'il a fait les choses et que dont nous sommes évidemment en France héritiers, pourquoi cette légende malgré tout autour de ces personnages? Je ne parlerai pas simplement de pages d'ombre et de pages de lumière, parce que tout personnage finalement historique en a. Moi, je propose plutôt de décentrer le regard et de ne pas de peut-être d'écrire l'histoire pas à partir de Napoléon, mais peut-être à partir d'autres personnages qui vivent au temps de Napoléon et qui disent des choses différentes, qui notamment se battent pour la liberté et l'égalité, quand même des principes qui s'inscriront au fronton de la République française et qui sont, eux, poursuivis par Napoléon et chassés par Napoléon. Et donc ce décentrement nous aiderait peut-être à être moins fixés sur la vie des grands hommes.
D'accord. Donc en fait, ce que vous voudriez, c'est qu'on commémore moins Napoléon et plus ses contemporains
ses contemporains, qu'on change la focale. Je veux dire, par exemple, même la question de l'abolition de l'esclavage des Noirs, au lieu de la regarder simplement du décret de Napoléon, de la regarder à partir des écrits de Toussaint Louverture ou de la déclaration de Louis Delgrès, par exemple. Ça serait aussi intéressant. Après tout, ces personnes disent des choses intéressantes, écrivent, font des déclarations et ont une conception de la liberté qui est tout à fait différente de celle de Napoléon. C'est des personnes contemporaines. Donc là, moi, je ne suis pas en train de parler d'aujourd'hui. Je parle de contemporain. Et ça, de déplacer, par exemple, la question de l'abolition de l'esclavage à partir de la Révolution haïtienne, nous fait absolument regarder les choses autrement. Ce n'est pas ne mettre celle-là plus importante, c'est de décentrer, faire un pas de côté.
On y reviendra tout à l'heure, mais on va continuer à évoquer la manière dont Napoléon est perçu, non plus seulement par les Français, mais par nos voisins européens.
En tout cas, c'est peu dire qu'il a laissé un souvenir assez contrasté chez ses voisins européens. Si on caricature un peu, il y a d'un côté les pays qui le haïssent assez clairement, et puis ceux qui le célèbrent avec une certaine emphase du côté du fan club, si on peut dire les choses ainsi. On trouve par exemple l'Italie, dont l'invasion par Napoléon, c'était en 1796, a posé les bases de la réunification. La gratitude des Italiens, elle s'exprime aujourd'hui de manière très visible, avec de nombreuses rues, des routes, des places qui portent son nom. Il y a également un poème très célèbre à sa gloire. Idem en Pologne, qui lui doit sa résurrection provisoire, c'était sous le nom de Grand-Duché de Varsovie. Il y fait encore aujourd'hui l'objet d'un véritable culte. Une statue à son effigie a été inaugurée en plein cœur de Varsovie, c'était en 2011. Ça, on le sait peu, mais l'hymne national polonais comporte également ces lignes-là. Bonaparte nous donna l'exemple, comment nous devons remporter des victoires. Pas du tout la même ambiance, évidemment, du côté de l'Angleterre, qui, 200 ans après Waterloo, le surnomme encore Little Bonnet. C'est pas très facile à traduire, mais c'est Petit Bonaparte. Il y a 5 ans, le British Museum a consacré une exposition assez géniale, une exposition entière aux nombreuses caricatures de Napoléon, avec des attaques parfois sous la ceinture, comme ce documentaire qui a été diffusé sur la chaîne Channel 5, qui mentionnait un rapport d'autopsie indiquant un pénis impérial de 3,8 cm.
Ah bah, vous savez tout.
C'est d'ailleurs la télévision, et donc la télévision britannique est la plus acerbe. La BBC l'a inclus, par exemple, c'est intéressant, dans une série, un triptyque sur les plus grands dictateurs de l'histoire. Il était coincé entre Hitler et Staline. On peut citer également rapidement l'Espagne, qui n'a évidemment pas pardonné la fusillade du 3 mai 1808. David Chantraine, quel pays semble, selon vous, avoir le ressenti, ou peut-être le ressentiment, le plus à la hauteur des faits et des événements ?
C'est difficile parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, ils ont tous une histoire particulière. Il y a tous ces lieux, on parlait tout à l'heure des Antilles, c'est évidemment une histoire tragique. En revanche, vous avez tout à fait raison quand vous parlez de la Pologne, mais on peut parler aussi de l'Égypte. Oui. En Égypte, il arrive en Égypte et là, il est vraiment l'enfant des Lumières. Il libère les esclaves. Il a fait la même chose avec les esclaves à Malte. Et pourtant, ça n'empêche, on en parlait tout de suite, ça n'empêche que c'est un homme qui va maintenir et rétablir l'esclavage de manière très dure. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont à rappeler. Et donc l'histoire de l'Europe, on parle de l'Allemagne aussi. Oui. L'Allemagne, c'est intéressant. Il crée la Confédération du Rhin. En cela, c'est un peu les prémices, finalement, des Länder actuels. Et de l'autre, il s'oppose à la Prusse. Mais en faisant de la sorte, eh bien, il fait créer avec Hegel, Fichte et Goethe, il crée le nationalisme allemand. Mmh. Donc il y a effectivement tout cela qu'il faut rappeler, c'est le rôle de l'historien.
Mmh. Isabelle Vera-Maison, on voit bien que en fait, le regard qu'on porte aujourd'hui sur notre histoire et notre passé est éminemment politique et dit des choses de nous aujourd'hui. Le fait qu'on soit tellement fasciné par Napoléon, est-ce que ça n'est pas aussi une nostalgie de quand la France était, on va dire, grande? Là, on vient de vivre une période où on se sent déclassé. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a cette recherche de la France grande?
Alors, si je peux me permettre, c'est la première partie n'est pas si évidente que ça. Quand vous dites nous sommes passionnés par Napoléon, moi j'ai suivi les sondages qui existent depuis la fin de la guerre, dans lesquels on demande aux gens quels sont les grands hommes que vous voudriez rencontrer. Effectivement, il y a Napoléon, il y a le général de Gaulle en général, et puis Jeanne d'Arc. Il disparaît. C'est-à-dire qu'à partir de 1996, on ne trouve plus Napoléon dans les sondages dans lesquels on demande quels sont les grands hommes que vous voulez rencontrer. Moi, j'ai discuté avec des étudiants quand j'ai présenté notre livre. Ils m'ont dit, nous, Napoléon, on ne l'apprend pas à l'école, on ne sait pas qui c'est. Donc, nous n'exagérons pas la
Napoléon mania.
Voilà, la Napoléon mania, elle est intéressante. Mais en même temps, ça justifie votre question. Pourquoi, en ce moment, y a-t-il cette envie de commémorer? Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, les médias le suivent, certains nombres de personnes? Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans le fait qu'il y a un retour de la nation. C'est-à-dire que les fameux baby-boomers se sont constitués politiquement contre l'idée de nation, on chantait l'international. Maintenant, on chante depuis quelques années les chants de la Révolution française que portait Napoléon. N'oublions pas que c'est avec la Marseillaise que l'on a conquis l'Europe, etc. Donc voilà, je crois que ce goût pour la nation qui nous vient depuis quelques années justifie que le grand homme de la nation, celui qui a porté la France à l'extérieur de nos frontières avec toute cette gloire, même les Anglais aiment Napoléon. Là, je disais qu'ils avaient racheté un petit bout du carrosse dans lequel on a trouvé Napoléon après Waterloo, je ne sais pas, 500 000 euros. Enfin, donc, il y a juste un petit morceau de bois. Donc, tout le monde est coupable.
Quand on parle de Napoléon, est-ce que c'est le continuateur de la Révolution française ou est-ce que c'est son fossoyeur?
Moi, surtout, c'est ce culte de l'homme fort, de l'homme qui vient sauver la nation, qui revient...
Comme providentiel.
Comme providentiel. Quand 2021, ça continue, on pourrait se poser des questions. Qu'est-ce qui se perpétue là? Quel est ce désir dans cet homme fort extrêmement? On voit quand même dans la plupart des tableaux qui le montrent, c'est le jeune homme qui est sur son cheval et qui prend l'Europe. Excusez-moi, c'est quand même des images sur lesquelles moi j'aimerais bien qu'on pose des questions.
C'est-à-dire?
Elles sont pas.
Il y a quelque chose d'identificatoire, vous voulez dire, par rapport à Emmanuel Macron notamment?
Oui, et puis d'offrir aussi au peuple français, puisqu'on disait qu'aujourd'hui il y a une recherche de nation, offrir de nouveau ces images-là. Alors que quand même, on est au XXIe siècle, il y a d'autres images. Moi, la question, c'est pas des
phrases de Napoléon. Jeanne d'Arc est très célébrée aussi, pour le coup.
Oui, mais alors, je pourrais être une Jeanne d'Arc. Je veux dire, on sait bien qu'il y a des jeunes queers qui disent que Jeanne d'Arc est une queer. Donc, de toute façon, il y aurait des manières. Donc, peut-être que Napoléon pourrait. Je pense pas que Napoléon peut faire de Napoléon un queer, pas du tout. Mais ça serait vraiment difficile. Ça serait vraiment difficile. Mais la question, oui, je pense que c'est un contre-révolutionnaire. Bien sûr, c'est profondément un contre-révolutionnaire. C'est quand même quelqu'un qui va, je veux dire, bon, d'abord, il se sacre empereur. Et donc, quand on parle de rétablissement de l'esclavage des Noirs, ou on parle du Code civil, le Code civil, c'était quand même pour les personnes blanches. Elle n'a pas été à appliquer aux personnes noires dans les colonies. Il ne faut pas oublier, même des personnes de couleur libres, je veux dire. Ensuite, il y a aussi des lois qui sont prises en France, qui ne sont pas dans les colonies, c'est-à-dire l'interdiction des mariages entre les Blancs et les Noirs, qui avait été abolie par la Révolution et rétablie la police des Noirs. Il y a quand même quelque chose qui passe. Que la Révolution française avait ouvert, n'avait pas complètement accompli, je veux dire, bon, de toute façon, et que peut-être il y aurait eu des régressions, la question, c'est que ce qui avait été ouvert a quand même été sérieusement refermé, et notamment autour des femmes.
Sur cette question, justement, Monsieur Chantraine, est-ce que c'est le fossoyeur ou le continuateur de la Révolution?
Mais justement, c'est ça tout le paradoxe de Napoléon, vous avez tout à fait raison, c'est le paradoxe de Napoléon. Il est, à l'époque, considéré par toute l'Europe monarchique quand même qui l'entoure, et même par le reste du monde, comme étant un homme de gauche. C'est-à-dire un homme de progrès, le Robespierre à cheval, comme on l'appelle. C'est-à-dire cet homme qui a poursuivi la République. Alors bien sûr, il revient parce qu'une raison d'ordre l'oblige, parfois un peu à son détriment, et puis parfois parce qu'il va un peu plus, trop loin. Il le dit, son ambition était trop grande. Il le dit à Sainte-Hélène, il dit « mon ambition était trop grande ». Il revient sur l'esclavage en disant « en 1815, il arrive au moment des 100 jours, le premier décret, le 29 mars 1815, c'est par décret de mettre fin à la traite négrière. Donc il s'est rendu compte qu'il avait fait des erreurs majeures dans son bilan. Il arrive à Sainte-Hélène, il a un esclave, il demande à ce qu'on le libère. Donc il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte aussi pour le Code civil. Donc c'est un homme de gauche à l'époque. Lui, quand il arrive au pouvoir, il dit du sacre et même du baptême de Clovis jusqu'au comité de salut public, j'assume tout. C'est un peu le discours d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on le considère comme de droite. C'est tout le paradoxe de Napoléon. Finalement, il est sur tous les échiquiers, mais il n'est pas tout seul. C'est toute une génération au pouvoir.
Un mot, Isabelle Vermasson?
Oui, d'ailleurs, il rétablit l'ordre. Est-ce que l'ordre est de droite? Est-ce que l'ordre est de gauche? Clémenceau était vraiment un dangereux homme de gauche à une époque, et puis il revient et il devient un homme d'ordre. Donc on est dans ce clivage droite-gauche de manière très profonde autour de Napoléon, et c'est le fait de partir de la gauche pour arriver à droite, ce qui est assez classique quand même dans l'histoire. C'est ce qui arrive peut-être à Emmanuel Macron, comme je crois qu'il était dans le gouvernement socialiste de François Hollande, et que voilà, il s'allie en ce moment, je crois, en PACA, avec des gens de droite. Donc voilà.